Après vous avoir écouté d'une part et vous avoir lu d'autre part, notamment par ce que vous dites de la mise en concurrence des systèmes sociaux, etc., j'ai fort l'impression que le néolibéralisme, et vous le dites de toute façon, est opposé à la démocratie, voire est adémocratique. Est-ce que vous pourriez nous spécifier les choses ?
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'on le montre dans le livre, par de multiples aspects, ce qui faisait le fondement, en quelque sorte, de la démocratie libérale, reposait d'abord sur une certaine division des pouvoirs et reposait sur des principes qu'on appelait le principe de citoyenneté. Principe de citoyenneté qu'on a souvent différencié en citoyenneté civique, politique, sociale. Bon, en tout cas avec l'État social, il est certain que le citoyen était doté non seulement de droit à l'expression ou liberté, mais de droit au suffrage et de droit à la délibération. Et troisièmement, qu'il avait des droits sociaux, droit à l'existence sociale. Et bien, c'est l'ensemble de ces droits qui sont aujourd'hui mis en question par le néolibéralisme. De sorte que je crois que nous pouvons parler avec la philosophe américaine Wendy Brown d'un processus de dédémocratisation. D'autres auteurs parlent de post-démocratie. Bon, peu importe finalement les termes, ils reviennent à peu près au même, puisque on peut en venir au point, à mon avis clé, la rationalité néolibérale, c'est-à-dire celle qui impose partout, de façon universelle, la norme du marché. Et le modèle de l'entreprise, ce néolibéralisme-là, cette rationalité néolibérale, est un processus destructeur de la démocratie libérale telle que je viens de la définir, dans tous les domaines. Pourquoi ? Bien parce que ce qui prime, ce n'est plus seulement l'expression de citoyens dotés de droits, ce qui prime, c'est la logique du calcul économique et la logique de l'efficacité. Ce n'est plus tant le citoyen qui est le sujet actif de nos sociétés. C'est le consommateur, d'une part, qui désormais doit jouir du seul droit qui lui reste, c'est-à-dire le choix entre une offre diversifiée. Voilà. À partir du moment où on dit que l'ensemble de la société et l'ensemble des institutions doivent fonctionner selon le régime de la concurrence, quel est le droit fondamental qui reste ? C'est le droit du consommateur à choisir dans une espèce de grand supermarché. Qui doit choisir quoi ? Qui doit choisir tout ce qu'il veut, il doit choisir ses produits, bien sûr, dans les magasins, mais il doit pouvoir choisir son école, il doit choisir son hôpital, il doit pouvoir choisir sa poste, il doit pouvoir choisir l'heure de son train, etc. Enfin bon, c'est un ensemble, finalement, de services commerciaux. Il a en face de lui des institutions qui sont des entreprises qui fournissent des services de nature commerciale. Voilà. Donc, ce n'est plus tant le citoyen qui exerce des droits, par exemple des droits politiques, et qui va, par l'intermédiaire de ses représentants, décider des grandes orientations du pays ou de la nation. Non, c'est le consommateur qui, lorsqu'il a des décisions privées à prendre, donc le fera dans toute liberté. Et, au fond, la politique, elle est réduite, finalement, à une logique d'offre et de demande. En d'autres termes, l'électeur va progressivement être considéré comme un consommateur qui doit choisir entre des offres concurrentes. Bon. Alors, à cela s'ajoute, du côté des pouvoirs constitués, si je puis dire, deux logiques complémentaires. Premièrement, le fait que désormais, dans cette logique de l'efficacité, dans cette logique entrepreneuriale, il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de division de pouvoir. Finalement, ce qui prime, c'est l'exécutif. Mais un exécutif qui lui-même est régi comme un exécutif d'entreprise. C'est-à-dire, au fond, un état-major d'entreprise avec des cadres supérieurs et un PDG qui décide en fonction des résultats à obtenir. C'est ce qu'on appelle la logique de résultat, c'est l'ensemble des outils de management qui doivent désormais régir les institutions, en particulier les institutions publiques, y compris les institutions parlementaires. Par exemple, on n'a peut-être pas assez relevé que les débats autour du droit d'amendement, en fait, étaient tous articulés autour d'une logique d'efficacité. Et ils étaient très symptomatiques. J'insiste un peu là-dessus, tous symptomatiques, parce que, au fond, qu'est-ce qui était dit ? Il était dit, au fond, qu'un certain nombre de procédures, un certain nombre d'exercices de droit devenaient coûteux, devenaient trop longs, par exemple, alors qu'il faut prendre des décisions rapidement, alors qu'il faut prendre des décisions efficaces, rapides, et ne pas trop passer de temps à discuter. Et ceci, au fond, éclaire, me semble-t-il, ce qui se passe maintenant dans l'ensemble de la sphère publique. Ne nous embarrassons pas, finalement, de procédures trop lourdes, trop coûteuses, ne respectons pas nécessairement l'ensemble des statuts, des droits, etc., parce que tout ça est à la fois coûteux, long, etc. Bon, partout, allons à l'efficacité, c'est-à-dire, au fond, appliquons des normes d'entreprise et des normes de droit privé, parce qu'elles sont plus efficaces, moins coûteuses, etc., etc. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en incorporant des normes de droit privé et des logiques de management du secteur de l'entreprise, au fond, c'est l'ensemble de ce qui faisait de la fonction publique, avec des défauts immenses, nombreux, que l'on connaît, mais qui faisait quand même de la fonction publique un ensemble institutionnel qui échappait à la logique privée, qui faisait qu'il y avait tant bien que mal un certain respect, de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général, en tout cas d'une certaine soumission à des logiques politiques, à des volontés au moins politiques émises par les citoyens. Tout ceci est mis en cause au nom du primat absolu de l'efficacité sur toute autre considération. En gros, l'économie au sens de la logique économique l'emporte sur toute autre considération. Alors, voyez-vous, on est maintenant entré dans une logique qui peut aller très loin. À partir du moment où cette logique de l'efficacité prime, le cynisme, l'opportunisme, la manipulation peuvent devenir des règles de fonctionnement quasi normal du système politique. Une bonne politique, ce sera une politique qui arrivera comme finalement une bonne stratégie marketing à convertir une partie d'une clientèle, suffisamment nombreuse pour se faire réélire. Pour cela, il faut des outils efficaces, des outils médiatiques. Par exemple, il faut pouvoir contrôler des chaînes de télévision qui vont diffuser le bon message et qui vont le matraquer. Bon, il faut donc effectivement que les présidents des chaînes de télévision soient à la disposition du grand chef, du PDG, bon, ainsi de suite. Donc finalement, les pays eux-mêmes se transforment en entreprises. Berlusconi, en Italie, gère l'Italie comme une entreprise et le dit comme tel. Il parle d'une démocratie compétitive. Mais finalement, Nicolas Sarkozy ne fait pas autre chose que de gouverner la France comme une entreprise. Il y a même des rapports les plus officiels qui portent, par exemple, je disais récemment, un rapport sur l'économie de l'immatériel de Jean-Pierre Jouyet et Maurice Lévy. Dans ce rapport, qui a été très bien reçu, on explique que ce qu'il s'agit de vendre, c'est la marque France. La France devenue une sorte de marque qu'il faudrait vendre à l'extérieur. Il faudrait pouvoir rentabiliser, enfin on ne dit pas ça comme ça, on dit valoriser économiquement son patrimoine, considéré comme des actifs qui doivent être vendus, qui sont source de rendement. C'est-à-dire qu'au fond, maintenant, et le langage de ce point de vue-là est extrêmement intéressant, on considère que non seulement les institutions, mais aussi le patrimoine, mais aussi un pays, doit se regarder, se concevoir comme une entreprise ou comme un stock de biens, enfin peu importe le type de métaphore qu'on utilise. Et ceci est assez indicatif donc de cette logique adémocratique. Parce que, simplement, on le sait, une entreprise capitaliste ne se gère pas comme des institutions démocratiques. Je veux dire que, d'ailleurs, les patrons le disent très bien, la démocratie s'arrête, en gros, à la porte de l'usine. Il y a un chef, et ce chef, il est élu par les détenteurs du capital. Et les salariés sont des subordonnés, comme l'indique le contrat de travail. Eh bien, ce à quoi nous avons affaire, c'est à des pays qui vont devenir des espèces de grandes entreprises, avec une masse de gens qui ne seront plus des citoyens, mais qui seront à la fois des consommateurs, des salariés, et éventuellement des actionnaires. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ce que nous avons à faire sur le plan symbolique, ça c'est très net, sur le plan symbolique, mais déjà... Et de plus en plus, sur le plan pratique, nous avons affaire donc à une logique d'effondrement des logiques démocratiques, au sens de la démocratie libérale.
Est-ce que ça veut dire, si je vous suis bien, que par exemple, si la France, la grande entreprise France, choisissait un modèle social protecteur avec des bonnes retraites, un système éducatif payé par l'ensemble des habitants du pays, est-ce que ça veut dire que, de fait, je suis foutu, quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres qui feront pas ce choix-là?
Alors, ça, c'est encore évidemment une chose importante, c'est qu'au fond, un pays n'est pas seul. Pourquoi l'entreprise France, pourquoi l'entreprise Italie, pourquoi l'entreprise Belgique, etc. Bon, pourquoi les pays se vivent-ils, peuvent-ils se dire déjà dans le langage comme des entreprises? Parce que, au fond, la norme néolibérale n'est pas une norme nationale. C'est une norme, justement, qui s'applique aux relations entre les pays. Je crois qu'il faut bien comprendre ceci, c'est que, et c'est pour ça que nous avons parlé de la nouvelle raison du monde, au sens de la nouvelle rationalité du monde. Hein. La raison ici, ce n'est pas du tout une faculté, c'est disons une logique. Bon. Cette logique, c'est celle de la concurrence. Les pays, les États, sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Bon. Et lorsque l'on lit dans un rapport que la France doit devenir une marque qui se vend, c'est bien parce que on conçoit que les autres pays vont être aussi des sortes de grandes entreprises qui vont se vendre. Tout le monde se vend, au fond. Et vous voyez bien aussi que dans cette logique-là, la relation normale, c'est une relation donc de concurrence, c'est une relation d'achat et de vente. Une relation regardée comme une relation marchande. Bon. Alors, les pays, et plus concrètement, les systèmes politiques, les systèmes institutionnels, etc., les systèmes sociaux dont vous parlez, les systèmes fiscaux, vont être évalués selon quels critères? Eh bien, selon le critère, justement, de l'efficacité économique. Selon que tel ou tel système permettra, par exemple, d'attirer plus ou moins les capitaux. Hein. Qu'est-ce que c'est que le bouclier fiscal? Puis on regarde ça, le bouclier fiscal, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est déterminant, le bouclier fiscal. Mais quel était le motif du bouclier fiscal? C'est que le capital ne s'en aille pas. C'est de retenir les grandes fortunes en France pour qu'elles n'aillent pas mettre leur argent donc dans un autre pays plus accueillant sur le plan fiscal, au capital. Il s'agit de ça. Les paradis fiscaux, c'est de ça aussi. Bon, mais c'est bien l'indice que la politique nationale est conduite en fonction, justement, de cette norme de concurrence. Cette norme de concurrence, elle s'applique au pays, mais qui l'a mise en place? Ce sont les États eux-mêmes. Je veux dire que ça a été une production politique, elle n'est pas venue spontanément. Et c'est ça qui est le plus frappant. C'est qu'aujourd'hui, on a l'air de dire, de façon extraordinairement hypocrite, que les États, les sociétés sont victimes d'un phénomène qui n'aurait été voulu par personne, etc. Alors, il faut avoir la mémoire bien courte pour dire ça, puisque finalement, on se rappelle d'une part que un certain nombre, et même beaucoup d'idéologues et de médias, nous ont expliqué pendant 30 ans que la mondialisation, de toute façon, était la plus merveilleuse des choses. Et deuxièmement, on a oublié que cette mondialisation, c'est-à-dire cette norme de la concurrence mondiale, avait été bel et bien construite politiquement. Je veux dire qu'on l'avait peut-être, à certains égards, délégué cette action des gouvernements à des instances internationale ou intergouvernementale, mais il n'empêche que au FMI, à l'OMC, etc., ce sont bien quand même des États qui sont présents et qui ont défendu une politique. Alors deuxièmement, cette norme de concurrence mondiale, elle ne va pas sans la constitution de normes de toutes sortes, des normes techniques, des normes commerciales, des normes monétaires, des normes financières, etc., eh bien que ces normes ont été produites, ou plutôt coproduites, entre les instances, entre les puissances publiques, les États souverains, comme on les appelle encore, les États souverains, et des entités privées, et en particulier des grands oligopoles qui, dans beaucoup de domaines, que ce soit l'informatique, Internet, la banque, etc., donc ont participé à l'élaboration des propres normes qui devaient régir leur comportement les unes vis-à-vis des autres. Bon, alors, tout ça pour dire que nous sommes entrés finalement dans un drôle de jeu, où nous avons construit, les États et les oligopoles ont construit donc un univers, si je puis dire, régi par la concurrence, qui les oblige de plus en plus à s'adapter au système que ces entités publiques et privées ont mis en place, donc à s'adapter et à faire passer à l'égard de la population des politiques d'adaptation. C'est-à-dire qu'au fond, on dit, puisque la mondialisation est une logique qu'on ne peut pas arrêter, eh bien, il faut céder sur tel ou tel point, il faut travailler plus longtemps, il faut réduire vos prétentions salariales, etc. C'est-à-dire que, en gros, la déflation salariale, qui a été l'une des causes de la crise financière, cette déflation salariale, elle est bien le produit, finalement, de cette concurrence mondiale qu'on a mise en place. Bon. Mais alors, ça ne s'arrête pas là, puisque, au nom de cette mondialisation, les États sont conduits à se transformer eux-mêmes de plus en plus, c'est-à-dire à introduire dans leur propre fonctionnement les mêmes logiques de fonctionnement, de concurrence qu'elles ont mises en place au niveau mondial. C'est-à-dire, finalement, entre la concurrence entre les écoles, si je puis dire, et jusqu'à la concurrence entre les États et les systèmes économiques et sociaux, on a une continuité. Et c'est bien, si vous voulez, ce qui caractérise la rationalité néolibérale. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle raison du monde. C'est que, d'une certaine façon, nous avons quelque chose d'exceptionnel. Nous avons affaire à une logique qui concerne aussi bien l'intimité du sujet, puisque chacun de nous est amené à fonctionner dans un système concurrentiel, un système de compétition. C'est bien le message qu'on transmet aux enfants, etc. Bon. Donc depuis le plus intime du sujet jusqu'à l'organisation du monde, au fond, c'est la même logique qui est à l'œuvre. Bon. Et donc j'en reviens à la question des États. Les États sont bien obligés de se redéfinir finalement comme des entreprises dans cette logique-là, et donc de détruire ou d'auto-détruire finalement les mécanismes démocratiques qui avaient été mis en place donc au cours des derniers siècles. Parce que, en effet, il y a contradiction pratique et symbolique entre la logique du management de la performance, comme on dit, et la logique de la délibération démocratique. Elle peut avoir des défauts et des avantages. En tout cas, cette délibération démocratique n'est absolument pas régie par les mêmes principes, les mêmes logiques, elle ne cherche pas les mêmes effets que celle d'une entreprise, c'est bien évident. Mais à partir du moment où on accepte finalement d'avoir un gouvernement entrepreneurial, on ne peut pas en même temps avoir donc des mécanismes démocratiques comme on les a connus avec tous leurs défauts jusqu'à présent.
Et si un gouvernement de bonne volonté décidait de s'abstraire de la concurrence ? Imaginons, on vote et on élit un gouvernement qui prône l'exact inverse de ce qui est susceptible de convenir pour faire de la concurrence aux pays extérieurs. C'est possible, c'est pas possible, ils vont se casser la figure tout de suite
Finalement, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Je veux dire, ce que nous essayons de montrer dans La Nouvelle Raison du Monde, dans notre livre, c'est que, évidemment, ce système connaît des ratés extrêmement importants. Je veux dire, le raté de la crise financière et économique en est l'exemple, mais ça peut... C'est un dysfonctionnement majeur parmi d'autres. Je veux dire, les conflits sociaux montent, des crises politiques extrêmement violentes peuvent se produire. Donc tout est ouvert. L'avenir est complètement ouvert. Nous ne disons surtout pas que le monde va continuer ainsi. On peut même penser que justement, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est à une modification des conditions de mise en place de cette rationalité néolibérale. Nous sommes peut-être entrés, enfin on peut le penser, dans une zone de tempête et dans un ce qui se constitue aujourd'hui, c'est un terrain d'affrontement nouveau et un terrain d'affrontement qui peut être effectivement radical, au sens où il peut poser des questions radicales. C'est-à-dire, en effet, quel mode d'organisation de la, non seulement de l'économie, mais quel mode d'organisation politique, quel mode d'organisation sociale nous voulons. Moi, je ne crois pas du tout que les citoyens ont complètement disparu du monde, justement. Derrière le consommateur, derrière le salarié, il y a toujours cette exigence citoyenne. Bon. Alors, la question que vous me posez, c'est de savoir si un pays pourrait construire tout seul une autre logique. Hein. Ça fait penser un petit peu à Staline, excusez-moi, à Staline et à la construction du socialisme dans un seul pays. Bon, et on a vu que finalement, la construction du socialisme dans un seul pays était quand même, n'avait pas eu toutes les réussites. Et au fond, c'est pareil. Un autre monde est possible. Mais quand on dit un autre monde est possible, c'est justement pas un autre pays. Une autre organisation du monde est certainement possible. Et la fonction historique des altermondialistes et du mouvement altermondialiste, je crois, a consisté à dire finalement assez tôt que les enjeux étaient précisément maintenant à l'échelle mondiale. Donc la question, c'est de savoir quel type de relation on peut mettre en place, aussi bien au niveau des États, des relations entre les peuples, avec une autre logique, et en se demandant, finalement, si cette autre logique d'organisation du monde ne devrait pas trouver, je dirais, son répondant en cascade, en quelque sorte, dans chacune des sociétés, et je dirais même dans les relations les plus élémentaires entre les individus. Parce que je crois que c'est ça qui nous a montré la rationalité néolibérale. Je crois que c'est son apport historique principal. Son apport historique principal a été de montrer que, finalement, depuis les relations intersubjectives jusqu'aux relations entre les États-nations, il y avait une continuité. La rationalité alternative, l'autre monde, finalement, qui pourrait se construire, devrait au fond répondre à la même exigence. Quel type de rationalité peut-on envisager, une rationalité d'ensemble, peut-on envisager qui donnerait finalement une continuité, qui fournirait une continuité entre les relations entre les sujets et la relation entre les États et entre les peuples? Nous, de façon extrêmement elliptique, parce que ce n'est pas notre propos, ce n'est pas le sujet du jour, ça viendra. Notre conclusion consiste à dire que, à la rationalité néolibérale de la concurrence généralisée, peut s'opposent déjà d'autres pratiques. D'autres pratiques que l'on peut repérer, d'autres zones, d'autres sphères, d'autres types de relations, si vous voulez, dans la société, qu'on peut déjà repérer, qui sont des relations de coopération, des relations d'entraide, de solidarité, des logiques du commun. Nous appelons ça le commun. Où on peut entendre aussi bien communauté que communisme. Nous voulons dire par là que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un certain nombre de gens se posent des questions d'agir en commun, de délibérer en commun pour définir le bien commun. Et les enjeux aujourd'hui sont ceux-là. Ils ne sont pas seulement, et pas principalement, semble-t-il, la question de l'État. Avant de poser la question de l'État, il faut poser la question, je dirais, des buts et de l'organisation sociale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire émerger quelque chose qui concerne chacun de nous, ce qu'on peut appeler le bien commun, ce qui concerne l'humanité en tant que telle. Bon. Ce bien commun, est-ce que ça sera des experts ? Ce seront des administrateurs ? Ce seront, je dirais, des chefs politiques qui vont le définir ? Ou est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes, disons, les membres des sociétés qui devront le définir ? Moi, je crois que l'enjeu, il est là. Le bien commun doit passer, son élaboration, sa définition, doit passer par des pratiques communes, des mises en action communes. Eh bien, c'est, je crois, dans ce sens-là qu'il faut chercher. C'est plutôt les pistes à explorer, aussi bien sur le plan, je dirais, théorique, sur le plan intellectuel, que sur le plan pratique. Et je crois que, finalement, chacun, là où il est, dans la société, aussi, je dirais, banal, local, sectoriel, soit son expérience, peut et doit sans doute commencer à expérimenter d'autres logiques que celle de la concurrence.